get your act together. I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.
Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est une autre histoire.
Le mardi, Alain Jacques Tornard est là pour nous raconter son week-end. Il était voir des expositions. Il s'est monsieur culture un petit peu.
Ouais, bah, il n'a pas fait très beau, donc j'en ai profité. J'aime bien voir des expositions, puis un peu en faire part. Alors, il y en a certaines qui me déçoivent un peu. Par exemple, au musée Yéniche à Vevey, l'art cruel. Je suis la cruauté dans l'art. Ça
peut être sympa.
Ça peut
divertir les enfants le week-end.
Dans ce monde de tellement doux, tellement gentil. Un peu de cruauté.
Vous avez emmené vos enfants pour aller voir cette cruelle exposition.
Je suis allé avec ma fille et mon fils et ma compagne. D'autant plus qu'on pensait que, vous savez, on peut prendre une carte journalière pour les TPF, mais en fait, ça ne va plus jusqu'à Vevey.
Ah bon, ça a changé.
Oui. Alors que c'était les TPF quoi. Qui desservent ça.
Après avoir supprimé la station de bus devant chez moi.
Ah oui.
On va bien aller en voiture, merci beaucoup.
Voilà,
sinon, tout va bien.
Alors, de choses à dire. Donc Art Cruel, moi j'ai pas tellement aimé, mais par contre, alors juste après, je me suis rattrapé au musée d'art de Puyi. Je connaissais pas le musée d'art de Puyi.
Ah oui.
Donc à côté de Lausanne. Hein,
et ah, c'est un beau musée.
Ouais. Ah oui, mais l'exposition actuellement en cours, j'en ai peu entendu parler. C'est la belle époque de l'art nouveau, autant de Bonnard et de Mucha. Mucha, vous savez, il est d'origine tchèque. Il a travaillé à Paris. Il a fait des affiches. Alors on voit les premières
ces affiches un peu à la style Aristide Briand, des trucs
voilà,
comme ça.
Voilà, exactement. Ouais. D'ailleurs, on voit naître au 19e siècle, la fin du 19e siècle, cet art, littéralement, qui est aussi un art commercial. Des fois, vous savez, il y a les artistes qui disent non, moi, je ne m'abaisse pas à faire. Eh bien, là, à l'époque, c'était comme ça qu'est né quasiment cet art. Mm-hmm. Et il y a même des dessins, ça me fait penser à de la bande dessinée. Je vous recommande d'ailleurs le catalogue, il est absolument magnifique. Ma fille a absolument adoré cette exposition.
Plus que la cruauté.
Ah oui, oui, beaucoup plus. Je signale juste qu'il faut faire attention avec les horaires parce que c'est du mardi au vendredi de 14 à 18h et le samedi dimanche de 11 à 18h. Mais c'est vraiment une exposition à voir pour tous ceux qui aiment justement cet art nouveau, pas confondre avec l'art déco hein, après ouais. La Première Guerre mondiale, mais qui est absolument magnifique quand on voit les Toulouse-Lautrec a fait y a participé
ça, ouais.
Et donc on voit justement ces affiches comment on a utilisé ça aussi dans les catalogues, dans la mode, etc.
C'est devenu une mode pendant un certain temps, pour les commerciaux, effectivement, pour tout ce qui est publicité.
Et puis, une autre exposition que j'avais vue il y a quelques jours, alors vous allez rire, j'atteins un âge qui me permet d'être invité par la jeunesse de Marsens. Une fois par an, ils offrent une petite sortie aux seniors.
C'est sympa de la part de la jeunesse.
Oui, elle est extraordinaire, notre jeunesse de Marsens. Et ils nous ont emmenés voir à Rheinfelden.
Sur le dos.
Feldschossen. Non,
mais oui, vous étiez.
C'est pas.
À la brasserie.
Oui, alors c'est pas ouvert. On peut pas y aller comme ça. Hein, si vous pointez, moi, une fois, je me suis pointé comme ça parce que je voulais voir la frontière. C'est une frontière extraordinaire, Rheinfelden. Hein, il y a Rheinfelden, Allemagne, Rheinfelden, Suisse, un superbe pont. Mais
oui,
du côté.
C'est très beau, ouais.
Mais du côté suisse, vous avez justement.
C'est un autre nom côté allemand après. Hein.
Mais c'est quand même de part et d'autre du Rhin, la même ville quelque part.
C'est très, très beau là-bas.
C'est très, très beau. Je recommande une passage, mais
vous pouvez même le faire sur le Rhin avec un petit bateau.
Oui, on peut y aller en bateau. Ce sont ce qu'on appelle le Fricktal, qui était
tantôt en Allemagne, tantôt en Suisse. Au bout d'un moment, tu sais plus où tu es.
Exactement. Et le château, justement, c'est une sorte de château, hein, Rheinfelden, le Feldschossen, est vraiment très intéressant. Il y a même des moi qui suis un passionné de vieilles voitures, vieux camions. Il y a même toute une halle consacrée aux vieilles voitures. Mais malheureusement, il faut être dans un groupe.
Donc, faut être vieux, quoi.
Non, pas du tout, parce que tout le monde peut se mêler à un groupe. Mais disons qu'il faut prévenir à l'avance pour être intégré dans un groupe, pour visiter, parce que ça prend quand même environ une heure et demie, deux heures. Et en plus, après, il y a une dégustation de bière. Bon, moi, je suis pas un amateur, malheureusement, je fais pas partie des buveurs de bière. Ils vont dire, oh, mais il y en a sans alcool, il y en a. Mais bon, c'est pas vraiment bon truc. Alors, par contre, ils ont une très bonne eau, puisque le propriétaire de Feldschossen est propriétaire aussi de l'eau, la Raisunzer, l'eau de Raisunz.
Ouais.
Donc voilà.
En tout cas, ça nous met à l'eau tout ça. Bah, merci Alain Jacques pour ses conseils, pour les groupes de Tamalou, comme on dit.
Voilà, exactement. Et bonjour à la jeunesse de Marsens.
On revient dans un instant.
C'est une autre histoire.
Alain Jacques Tornard est aujourd'hui avec nous et on va parler aujourd'hui d'une révolution, puisque c'est l'anniversaire du jour.
Tout à fait.
Bravo, merci beaucoup pour cette remarque. Bon, écoutez, je vais vous faire écouter plutôt, ça va vous inspirer plutôt de vous faire écouter ça.
Quando la villa morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade.
Alors, de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, le 25 avril 1974, Rio, Portugal, la station catholique Radio Renaissance diffuse cette chanson de José Afonso. Alors, vous allez me dire,
grand animateur radio était né aussi.
Alors, oui, vous allez me dire, c'est sympa ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est le signal tout simplement du départ de la révolution des œillets. Aussitôt, de jeunes capitaines se soulèvent contre la dictature. mesure qui avait été instaurée 48 ans plus tôt par Salazar. Et après quelques mois de turbulence, le pays va pouvoir reprendre sa place parmi les démocraties de même, européennes. D'ailleurs, il en ira de même quelques temps plus tard avec le général Franco qui va mourir. Alors, en fait, le Portugal était dans un drôle d'état. Elle avait échappé à la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait un statut neutre, comme un peu l'Espagne.
Ouais.
Et à la fin des années 50, le Portugal figure quand même à la traîne de l'Europe occidentale pour le développement économique, en raison d'une gestion excessivement prudente des dépenses publiques par le docteur Salazar. Vous savez que des fois, quand on ne veut pas s'endetter, c'est un peu comme l'Albanie à un moment donné, il y avait, ou la Roumanie, zéro dette, mais en même temps, il n'y avait pas de véritables investissements. Et le pays doit se contenter d'assurer sa souveraineté, surtout sur les vestiges de son empire colonial. Alors, vous savez qu'il y a une forte communauté portugaise à Fribourg, hein,
oui.
Dans le canton de Fribourg, et sans doute certains s'en souviennent, il y avait une carte qu'on donnait aux élèves du Portugal. Alors le Portugal est un peu coincé, hein, par rapport à l'Espagne, mais surtout il montrait cet empire colonial à travers le monde, Timor-Est, l'Angola, la Mozambique, la Guinée-Bissau, ça donnait l'impression d'un territoire immense. Sauf qu'il ne vous a pas échappé qu'au début des années 1960, il y a eu une volonté d'indépendance de l'Afrique, tout à fait légitime. Ce qui a donné, à un moment donné, dès le début des années 60, un début de guerre, d'indépendance. Tour à tour, le Portugal va perdre Goa en 1961, et puis surtout, la Mozambique et l'Angola se révoltent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un peu comme les Français pendant la guerre d'Algérie, hein, on va envoyer le contingent, c'est-à-dire les jeunes recrues.
Ouais.
Et donc,
c'était ça.
Voilà.
Une guerre inutile pour eux.
Oui, bien entendu. Et c'était surtout plusieurs années de service militaire, dans des conditions quand même, l'Afrique, l'Angola, la Mozambique, le Mozambique, c'était quand même pas des endroits idylliques. Hein. Et c'est pour cela que beaucoup de jeunes émigrent clandestinement en France et en Suisse aussi. C'est pour ça qu'au départ, on a de longue date une grande communauté portugaise en Europe occidentale et en France. Alors, bien entendu, crée un grand malaise dans la société et ça ne pouvait pas durer éternellement. Il y a eu cette révolte et c'est Marcelo Caetano qui succède à Salazar, la présidence du Conseil, le 28 septembre 1968. Mais lui, il essaye de débaucher des réformes, mais ça n'aboutit pas. Hein. Et bien entendu qu'à un moment donné, il y a une révolte. C'est les militaires qui se révoltent, qui font une sorte de...
En fait, ils ne veulent plus partir à la guerre pour de mauvaises raisons.
Ils ont compris qu'on était totalement dans une impasse, qu'ils étaient instrumentalisés et puis qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et c'est une vendeuse de fleurs du Rocio, la grande avenue de Lisbonne, qui offre aux soldats qui étaient là pour réprimer, hein, les fleurs de saison qu'elle a à vendre. Ce sont justement des œillets rouges. Et le lendemain, le Monde, le fameux journal parisien, sort en première page la révolution des œillets triomphe au Portugal.
Et c'est vrai qu'ils avaient mis des œillets, ils mettaient des œillets au bout de leur fusil, c'est
voilà,
ça
hein. Au fusil, finalement, c'était un facteur de paix. D'ailleurs, depuis, ça devient une tradition. Hein, on offre des fleurs. Je me souviens même que des gilets jaunes avaient offert au CRS des fleurs. Il y a cette idée-là aussi. Et finalement, bon, heureusement, il y aura peu de morts et de blessés. D'ailleurs, raconté dans un film suisse, La Grande Zone, je crois que c'est, je ne sais plus, qui montre justement une équipe de la télévision suisse qui se retrouve au beau milieu de cette révolte. Alors, forcément que ça se passe bien, mais en même temps, tout le monde veut arriver au pouvoir, hein, en Espagne, on veut confisquer cette révolution, et après, quand même, beaucoup de tergiversations, on rétablit les libertés, on nationalise les secteurs clés de l'économie. C'est plutôt la gauche donc, qui arrive au pouvoir, avec le leader socialiste Mario Soares, ministre des Affaires étrangères. Mais le problème, c'est qu'on va décoloniser à toute vitesse. Au lieu de négocier sur une longue durée, là, tout à coup, le Portugal se débarrasse à la va-vite de ses États souverains, ces États qui vont devenir la souverains, Guinée-Bissau, 1974, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Saint-Thomas et Prince, en 1975, Macao, qui va être rendu à la Chine populaire, Timor-Est. Mais ça se passe mal parce que finalement, comme on donne le pouvoir à des gens qui ne sont pas du tout préparés, dans nombre de ces pays, il va y avoir des mouvements de différence, obédience, marxiste, quand c'est pas musulman, tout ça. Timor-Est va tomber sous la coupe des Indonésiens qui sont musulmans, alors qu'eux sont plutôt chrétiens, et ils mettront des années avant d'obtenir une indépendance grâce d'ailleurs au soutien de l'Australie. Donc tout cela a été quand même une décolonisation assez chaotique. L'Espagne connaîtra la même chose d'ailleurs avec le Sahara occidental, dont la question n'est toujours pas résolue actuellement. Heureusement pour le Portugal, ça va être quand même assez problématique pendant plusieurs années, et la situation va vraiment se normaliser avec l'entrée du Portugal dans l'Union européenne en 1986. Comme quoi, l'Union européenne a quand même eu du bon.
Ben voilà, c'est une bonne transition pour un ami de l'Europe, Emmanuel Macron, dont on parlera tout à l'heure.
C'est une autre histoire.
Avec Alain Jacques Tornard, notre historien maison, parce que c'est un peu de l'artisanat, quoi. C'est fait maison.
Voilà, exactement, tout est fait maison.
Et donc, on a quand même tous suivi, évidemment, notre décompte, 10, 9, 8, c'était dimanche à 20h.
Ouais.
Vous aussi, vous l'aviez suivi?
Oui, bien entendu.
Sur quelle chaîne?
En famille, moi, je zappais sur les différentes chaînes.
Pour faire le tour.
Mais d'abord, la télévision suisse, puisqu'elle a pu annoncer dès 19h15, alors j'ai téléphoné à tous mes amis parisiens France pour leur annoncer.
Les Suisses et les Belges l'annoncent souvent en avance.
Exactement.
C'est le premier truc que j'ai eu, parce que il me semble, alors peut-être je me trompe, mais que ces dernières fois, les Belges l'ont annoncé souvent avant la Suisse.
Tout à fait.
Et donc j'ai été regarder sur le site de RTL soir.
Mais c'était pas toujours fiable, hein, pour le premier tour, les chiffres n'étaient pas tout à fait exacts. Mais voilà, moi j'étais tellement déçu par cette campagne, j'avais même écrit un petit poème, où es-tu ma France, ma belle, je sais plus.
C'est le désespoir ça, c'est le quai du désespoir.
Oui, parce que vous avez une femme de droite, quand même assez à droite, qui vous parle comme si elle était de gauche, hein. Il y a les accents mélenchoniens presque.
Il y a pas mal de points communs en fait.
Et puis vous avez un homme issu quand même des rangs socialistes qui est vraiment un ultralibéral.
Il était quand même socialiste.
Oui, bien sûr, socialiste. Voilà.
Avec Hollande, il était quoi alors?
Social-démocrate. Ces sociaux-démocrates qui sont de plus en plus à droite, qui ont toujours été atlantistes. C'est ce qui d'ailleurs les lamine à l'heure actuelle.
Justement, c'est pas justement la perte de. Enfin, quand on voit les scores du Parti socialiste, c'est pas parce que justement ils défendent plus du tout. C'est pour ça que les votes sont peut-être reportés sur les Mélenchon.
On devrait se méfier un petit peu aussi parce
qu'en Suisse, il y a le même symptôme. Les socialistes n'ont plus rien de socialiste.
Hein. Ils pourraient perdre beaucoup de plumes. S'ils perdent leurs fondamentaux. Les gens sont très légitimistes. Et que, c'est pas pour rien que Mélenchon a fait, y compris même en Suisse, un très bon score. Parce que, tout simplement, parce qu'il y a le goût de l'authenticité chez lui. En plus d'être un magnifique orateur, il est très séduisant. Tandis que là, on se dit qu'on joue à front versé, on sait plus très bien. Quand vous entendez Macron vous dire c'est en frappant le cœur que vient la vérité, il l'a déjà dit en 2017.
Ouais, il a tout répété quasiment. Hein.
Il avait dit aussi à ce moment-là, dans 5 ans, vous verrez, il n'y aura plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Bah, c'est le seul truc qu'il a radié de son discours.
Simplement qu'il y a eu quand même 13,5 millions d'abstentionnistes, 28%, 3 millions de blancs et nuls, c'est quand même pas anodin. Je remarque Marine Le Pen est passée de 34 à 41,5% des voix. C'est quand même, comme on a toujours dit qu'il y avait quand même un front républicain, que ceux qui votaient pour l'extrême droite, c'était quand même de l'adhésion, il y a quand même, donc ça veut dire qu'il y a eu 41,5% des gens qui n'ont pas hésité à voter pour l'extrême droite. Ça veut dire quand même quelque chose de bien précis. Elle a quasiment doublé, elle avait fait 5,5 millions, elle a fait 11 millions de voix. Elle est en tête dans 30 départements, c'est quand même pas rien, qu'un ou deux la fois dernière. Deux régions.
Mais est-ce que les gens la considèrent comme d'extrême droite? Parce que ce qu'on entend souvent, c'est qu'elle n'est plus d'extrême droite.
Vous remarquerez que souvent on dit Marine, tout simplement. Hein. Ouais. Parce qu'à tort ou à raison, elle fait preuve d'empathie. Moi, ce que je vois avec Macron, c'est toujours cette.
Je me demande quand même, est-ce qu'elle est sincère, Marine Le Pen?
L'important, en tout cas, c'est qu'elle correspond à un besoin. Vous savez, des fois, on se dit, on fait quelque chose. J'ai remarqué souvent ça en histoire. Faites quelque chose par par tactique. Puis on voit qu'il y a une telle adhésion que vous devenez ce que l'on veut tel que vous apparaissez.
Ouais.
Et je pense qu'elle devient sincère au fil du temps. Elle a vu combien dans le nord de la France, par exemple, qui est une région qui a beaucoup souffert, c'est ma région d'origine où je suis né, où on voit qu'il y a réellement une fusion entre quand Macron est venu à Denain qui disait à cette dame mais vous savez pas ce que c'est que la vie alors que c'est les gens qui souffrent, tout ça. Non, on voit bien que là il y a quelque chose d'important. C'est pas pour rien d'ailleurs que Marine a remporté 65% des voix chez les ouvriers, hein. C'est vraiment énorme. Le vote d'outre-mer, les mélenchonistes qui avaient triomphé, hein. Mélenchon avait triomphé aux élections au premier tour de la Martinique, à la Guadeloupe.
Là, les voix se sont remportées sur Marine Le Pen, malgré les instructions de Mélenchon.
De 70% des voix à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane.
Les situations sont encore, ils ont encore plus l'impression d'être abandonnés. Hein,
exactement. Donc ça veut dire quand même qu'elle correspond à un besoin. Et malheureusement, comme les autres partis ont déserté leurs idéaux, et en plus Macron est grandement responsable parce que il a laminé les corps, ce qu'on appelle les corps intermédiaires en France. Il a voulu vraiment avoir un contact direct avec le peuple. On n'a plus voulu par exemple le cumul des mandats, ce qui fait qu'on n'a plus les potentats locaux, mais qu'il y avait un certain pouvoir qui contrebalançait Paris. Mmh. Et ça n'existe plus tout ça. Et
ça se ressent dans les régions.
Et bien entendu. Et donc c'est pour cela d'ailleurs, c'est étonnant. Une fois que vous avez quitté les grandes villes, le vote pour Le Pen est majoritaire. À un moment donné, l'autre soir, on voyait qu'ils étaient à égalité parce qu'on n'avait pas encore les résultats des villes. Quand vous regardez la carte de France, vous voyez très bien, bien sûr que si vous faites en gros avec les villes, vous voyez que le Nord, par exemple, a voté Macron. Mais non, c'est pas vrai. C'est Lille qui a voté Macron, donc qui a fait la différence. Sinon, une grande partie du Nord, du département du Nord, a voté pour Marine Le Pen. Ma ville où je suis né, enfin, où j'ai vécu, Saint-Lenoble, d'ailleurs, il y avait hier, à Quotidien, il y avait un passage sur Saint-Lenoble, ils ont voté à 60% pour Marine Le Pen. C'était une mairie communiste autrefois.
C'était celle-là, oui.
Alors, en plus.
Ah, c'est chez vous, ça.
Oui, oui.
Ah, on comprend bien des choses maintenant.
Oui, exactement. Macron a dévitalisé la droite, la gauche s'est effondrée, ce qui fait que maintenant, par exemple, pour ces législatives, on a trois blocs. Mais on peut parier quand même que Macron va à nouveau s'en sortir haut la main, parce qu'il y a de profondes divisions à gauche. Il vous a pas échappé qu'il y a aussi de profondes divisions dans le camp national, liste.
Républicain.
La droite nationale, j'appelle ça plutôt j'aime pas dire l'extrême droite, justement, parce que pour moi, je trouve que c'est plus l'extrême droite telle qu'on l'entend. La droite dure, disons. Puis la droite traditionnelle, alors, elle est encore très bien implantée dans les régions, donc elle pourrait quand même encore faire un bon score. Donc je pense qu'il va disposer sans doute d'une majorité, peut-être relative.
Je veux pas dire, mais on est en train d'avoir une planète qui part en sucette et il n'y a pas eu un mot sur l'écologie de personne et personne ne s'y intéresse. Hein.
Oui, mais alors lui, il a fait semblant en allant sur les terres de Mélenchon, là aussi. Hein, mais c'est justement, c'est tellement, tellement gros, tellement les ficelles sont tellement grosses. Les gens, quand même,
c'est ça, il n'y a pas de sincérité, non ?
Non.
Ça manque de sincérité.
Alors, c'est de l'opportunisme. D'ailleurs, mais il est formidable dans ce domaine-là. Hein. Et ça marche d'ailleurs. Ouais. Hein, les personnes âgées, les nantis l'écoutent, l'entendent. Se trouve que c'est très bien ce qu'il dit. Mais on est dans l'éloge permanent d'hypocrisie, quoi. Parce que avec Macron, et ça va continuer pendant 5 ans. Alors, c'était étonnant. Il avait fait un lapsus. D'ailleurs, les télévisions qui sont plutôt à sa botte, hein, n'ont pas vu que ce qu'il avait dit, une grosse bêtise juste avant le débat. Il dit, sur TF1, on l'entendait, il parlait comme ça. J'ai aussi à répondre de tout ce que nous avons fait dans les 5 années qui viennent.
Ah, voilà.
Il a dit ça. Regardez, dans les 5 années qui viennent. On voit qu'il est obsédé par ces 5 années qui viennent. Il sait que ça va pas être un long fleuve.
Mais est-ce que vous pensez qu'il va changer quand même sa façon de faire de la politique ou il va vraiment être dans la continuité, malgré ce qu'il dit, hein. Il promet des révolutions géniales, hein, mais.
Mais c'est sur le papier tout ça. Et malheureusement,
c'est des discours.
Ce qu'il a de meilleur est sans doute largement phagocyté par ce qu'il a de pire. Et on ne s'y est pas trompé, la soirée électorale était quand même bizarre sur le moment, sur place. On voyait qu'il y avait relativement peu de monde.
Il y a un DJ qui mettait l'ambiance, il n'y avait pas une ambiance non plus.
Voilà, de ouf. En plus, on a entendu des cris bizarres. Hein.
Okay, vous avez entendu des choses étonnantes.
Oui, c'est dans le quotidien qu'ils l'ont répercuté. Là, Manu à poil. Puis l'autre, ta formule, c'est quoi déjà? J'ose même pas dire.
Alors c'est moi qui dois faire le job maintenant parce qu'Alain Jacques n'assume pas où il va. Manu pète-moi le cul, je crois.
Bah, dites donc, voilà.
Mais ça a été repris par les médias du monde entier.
C'est surtout ça que je voulais dire.
Voilà. Sur toutes les chaînes du monde.
Voilà. Donc, le monde entier l'admire, hein, les Européens, bien entendu. En plus, cet hymne européen qu'il met comme ça, on voit bien. Tout à coup, c'est étonnant parce que lors de la campagne, c'était moins européen. Hein, on mettait moins l'accent. Et puis, tout à coup, quand c'est l'élection reparti. Est faite, hop, ouais. c'est l'Europe.
Ils ont toujours un peu peur parce que l'Europe fait pas trop rêver côté français.
Justement.
C'est ce qu'a fait monter Marine Le Pen. C'est cette envie d'indépendance.
Si maintenant, Marine Le Pen dit qu'elle veut pas sortir de l'Europe, mais réformer l'Europe de l'intérieur. Ce qui d'ailleurs serait une bonne chose, peut-être pas à la manière dont elle l'entend, mais il serait peut-être intéressant de revoir, de revisiter, de reprogrammer, comme on dirait aujourd'hui, l'Europe avec de nouveaux fondamentaux, sans doute.
Mais Marine Le Pen avait quand même fortement envie de changer la constitution française pour pouvoir faire voter un peu plus le peuple. Oui. Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, si le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord de le faire, mais le Sénat est toujours entre des mains de gens plutôt conservateurs, ah oui. au sens large du terme d'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, et donc il faut quand même je crois qu'il faut 2/3 pour changer la Constitution. Ce qui devrait être, premièrement, dans un premier temps, c'est surtout instaurer la proportionnelle. Quand vous voyez que le parti de Marine Le Pen a fait 41,5% aux élections présidentielles et qu'il ne disposera peut-être même pas d'un groupe parlementaire, c'est extrêmement malsain. Oui. Quelle est la légitimité de ce pouvoir? Je rappelle quand même que Macron, si vous prenez à partir des inscrits, il a été élu par 38% des gens.
Ce qui est... Même moins si on prend tous les gens qui ont voté blanc, les abstentionnistes, etc.
Exactement. Donc se pose, d'ailleurs le président du Sénat lui-même l'avait posé, la question de la légitimité du pouvoir. Donc il serait vital pour cette Assemblée, qu'elle ne soit pas simplement cette Assemblée Godillot, alors en plus extrêmement curieuse, avec des gens vraiment bizarres. Le député pour la Suisse, M. Sonneforger, il a quitté au bout d'un an la République En Marche, il a rejoint la droite, il a été, quand il y a eu, c'est lui qui avait diffusé pour Griveaux, vous savez, ce fameux, celui qui s'était fait avoir avec une sextape, là, c'est lui qui l'avait diffusé. Et maintenant, il est député, non inscrit, mais favorable à Éric Zemmour.
Il est passé par tous les bords, celui-là.
C'est le député pour la Suisse, député des Français de l'étranger pour la Suisse. On avait, à l'époque, d'ailleurs, c'est là qu'on voit que Macron avait été enthousiasmant pour beaucoup de gens, puisqu'il avait recueilli ce gars, 75% des voix contre la députée sortante Madame Schmitt. C'est qu'il y avait au premier tour fait que 15% des voix. C'est absolument ahurissant de voir dans quel état est ce parti La République En Marche. On le masque, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de gens qui ne veulent pas se représenter, et je ne sais pas avec qui va véritablement...
Quelques ralliements, non ?
Oui, bien entendu.
Il y a
beaucoup de gens qui vont à la soupe, comme on dit, oui. Mais c'est pas avec ça que vous faites une bonne politique, parce que ce sont des ralliements. Ce ne sont pas des alliances, c'est des prises de guerre, comme on dit.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est, encore une fois, c'est jamais très bon. Il faut une véritable alliance. Macron devrait vraiment rechercher. Lui qui sait tellement bien faire le grand écart.
Il avait quand même été chercher pas mal de gens, en fait, dans la fonction publique. Et est-ce que, justement, il a toujours cette base-là
Là, la fonction publique, ça a toujours été la base. Mais on sait bien que ceux qui gouvernent, ce n'est pas les politiques. Ce sont ses proches qui travaillent avec lui. Comme ce fameux Colère qui a vécu à Genève. Il s'occupait, il travaillait pour la compagnie MSC. Je ne sais pas si vous vous souvenez des bateaux. Hein,
croisières.
C'est ça, oui. Et donc, c'est un proche, c'est celui qui gouverne réellement avec Macron le pays, mais qui est inconnu. Quand il est arrivé sur la place où avait lieu la fête d'investiture, enfin plutôt des résultats, on lui a demandé qui il était parce qu'il est tellement tellement peu connu et pourtant c'est lui qui est au pouvoir. Vous voyez, c'est ça qui est malsain. Oui, oui. On ne sait pas qui gouverne réellement ce pays, alors que c'est quand même une des plus grandes puissances au monde.
C'est une autre histoire.
Alain-Jacques Tornard, qui est censé nous parler de Tchernobyl, est parti en Crimée, il est passé par le Kosovo pendant Lionel Richie. Bah, beaucoup de choses dans cette tête.
On a beaucoup discuté. Mais, ouais. Mais c'est vrai que... parce que à Tchernobyl, quand même, c'est un lieu emblématique. À 16 km de la Biélorussie, on est en Ukraine et on est le 26 avril 1986. En fait, si vous remportez ce jour-là, il ne s'est rien passé pour nous. Parce qu'on n'en a jamais entendu parler pendant des jours et des jours. Il y a une explosion du cœur du réacteur numéro 4 qui répand dans l'atmosphère l'équivalent d'une centaine de bombes atomiques d'Hiroshima. Quand même, hein, c'est pas rien. Mikhail Gorbatchev, qui est quand même à l'époque l'adepte de la glasnost, la transparence, fait tout pour étouffer l'affaire. Il ne faut surtout pas en parler. En plus, ça partait d'un bon sentiment. On voulait tester les capacités de résistance de la dite centrale, parce qu'elle était quand même assez vétuste. Et ça avait très très mal tourné, d'où cet accident terrible qui a coûté la vie d'ailleurs à des milliers de personnes qui ont été sacrifiées littéralement sur place. Et on en aurait peut-être...
Parce qu'on ne leur avait rien dit.
Oui, on leur a donné...
Les infos sont arrivées trop tard.
Exactement, on a évacué simplement le lendemain la ville à côté, ce qui fait qu'elle est devenue une ville touristique intéressante, parce qu'on a l'Union soviétique figée comme à Pompéi à un moment donné.
C'est le retour des animaux dans les villes.
Exactement, d'ailleurs, c'est devenu une réserve naturelle. Ouais. Et puis, il y a un tourisme un peu morbide, parce que ça se développe beaucoup, ce tourisme un peu bizarre, comme ça, sur place. Bon, les gens n'y restent pas beaucoup, mais il y a eu surtout, ce sont les Suédois qui ont révélé l'affaire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de bizarre hein, quand ils analysaient l'air. Et puis, c'est comme ça que les Soviétiques, à l'époque, ont dû admettre qu'il y avait eu un gros problème. Et tout à coup, je me souviens encore, il faisait un beau ciel bleu. Mais c'est un peu comme avec le Covid, vous savez, on voit rien. Puis on se disait, mais il y a quelque chose qui se passe, puisqu'on avait entendu qu'il y avait un retour de vent d'est vers l'Europe de l'Ouest. La Suisse, d'ailleurs, a été frappée de plein fouet, comme l'Est de la France, comme la Corse aussi, le Tessin en particulier. C'est pour ça qu'on ne pouvait plus manger de champignons pendant des années, il me semble, d'ailleurs.
J'en ai jamais mangé.
Et puis, c'est là aussi qu'il y a eu... Alors, ça a été le point de départ. On parlait tout à l'heure des affections des gens pour la politique. Ça a joué un rôle. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose absolument ridicule qui s'est passé. C'est que des spécialistes français du nucléaire sont venus dire, la main sur le cœur, que ce n'était pas un problème, qu'on risquait rien. Forcément, le lobby nucléaire était hyper puissant. Un peu comme les cigarettiers, à un moment donné. Hein. Ils vous disaient qu'on risquait rien. Et puis, alors, la météo... On disait, le nuage s'est arrêté à la frontière française. Beaucoup de gens c'était un rire tragicomique, hein, puisque, bien entendu, c'est vrai que ça n'avait pas envahi totalement le territoire français, parce que, comme ce sont des courants d'air tournoyants, ça avait frappé essentiellement l'est de la France, la Suisse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça n'a pas été au-delà, beaucoup de territoires français n'ont pas été, par exemple, atteints. Tandis que la Suisse, globalement, surtout le Tessin, comme on l'a dit, avait été submergé par ce nuage, même si on nous a dit aussi, la main sur le cœur, que ça ne présentait pas un grand danger. Mais ça voulait dire aussi le discrédit des politiques qui nous avaient menti, vraiment grassement menti, les spécialistes. C'est pour ça que quand il y a eu après...
C'est moins crédible après.
C'est pour ça que quand vous avez eu le Covid, les gens se sont souvenus, ont pu s'appuyer là-dessus en disant « Ouais, mais du temps de Tchernobyl, on nous avait déjà aussi bourré le mou, comme on dit vulgairement. » Les politiques, depuis lors, c'était tellement frappant, tellement voyant. Vous savez, quand on fait, quand on ment au peuple, il faut savoir enrober tout cela et que ça ne soit pas trop.
Un peu de discrétion.
Voilà, un peu de discrétion. En l'occurrence, c'était tellement gros, la ficelle. On est souvenu quand il y a eu le Covid, puisqu'on nous avait dit, vous savez, qu'on ne risquait rien, on n'avait pas besoin de masque, tout ça, etc.
Il y a une évolution des discours.
Mais on voit bien que c'est toujours les mêmes recettes qui sont utilisées, et ça a largement contribué au discrédit, et tout cela nous vient de Tchernobyl.
Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est des politiques moins crédibles et qu'il y a plus d'extrêmes au pouvoir. Merci d'être passé, Alain-Jacques Tornard.
Oui, ce fut un plaisir.
Et on vous retrouvera mardi prochain.
J'espère bien.
Oui, j'espère aussi. Allez, belle journée.
Radio FR.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
On rappelle qu'on a besoin de numéros de téléphone de Suisses allemands parce qu'il
voilà.
est temps.
Des Suisses allemands qui ont fait des bêtises cette année.
De
pour
préférence.
Pour que le père Fouettard puisse passer un coup de fil.
Ouais.
Pour remettre les choses en ordre,
exact.
En place.
Exact.
Hein, riche, tac, 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 tac,
tac, tac. À la Suisse d'autre, quoi. Ornung, Jagenau.
Ornung, filet, crolobé.
Jagenau.
Voilà.
Donnstickerloub.
Le Donnstickerloub, cette grande émission qui
comment
nous Clomb. Clomb. Comment ? Je dois le refaire ?
Oui, non, parce que là.
Le Donnstickerloub.
Voilà.
Cette émission de grande culture. Où nous apprenons donc le Saint-Ginois.
Voilà.
De surcroît. Et comme nous sommes la Saint-Nicolas, nous avons trouvé un.
Nicolas !
Wouhou ! Nicolas, salut !
Salut, Mitterrand.
Salut, Mitterrand.
Je fais grotte.
Tip top.
Hey, super.
Super guy. Alors, bon, moi, je crois qu'il est grand temps que la régie compose le numéro.
Und du bist der Santi Klaus, gell?
Ich bin der
Super.
Schmutzli.
Ah, der Schmutzli, ja, genau. Ja.
Hey, j'ai peur.
Na ja?
Ja, hallo?
Hallo?
Ja, hier ist der Schmutzli am Apparat.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe gehört, dass ich AW Blödsinn gemacht habe dieses Jahr. Und ich muss euch auch strafen.
Ja, voilà.
Ja, also ich muss zuerst wissen, genau, was seht ihr gemacht dieses Jahr?
Oh,
nur mehr Schiss Dreck. Nur mehr Schiss Dreck? Aber immer jene musst du echt lernen.
Nein, schon. Wer ist am Telefon?
Das ist von Radio Fribourg. Schmutzli von Radio Fribourg.
Ja. Hallo!
Hallo!
Hallo! Wir sind der Schmutzli.
Ja, ja. Wir Hallo. Sind
da. Ist ja ein Haufen Schmutzli da.
Für ein Schlage, ja?
Jawohl.
Für ein Bretsche.
Ich will dich auch korrigieren.
Ja.
Was Sie sind der Machso Bastis.
Wie?
Sie sind der Machso Bastis, oder was?
Oder Tschöcke Gregeli.
Gau?
Ja, ja.
Kennst du?
Der Nummer?
Ja, ja.
Jemand hat uns gegeben?
Ja.
Samuel, le numéro 5 des Black Cats ouais, et bah, sa bravo. Choupinette.
Bravo.
Ah bah bravo.
Ah bah bravo.
Alors
ouais.
C'est qui? C'est ah, bah, qui Samuel?
C'est un qui joue avec moi au hockey.
Mmh. Ah voilà.
C'est les Black Cats, l'équipe
ouais.
de hockey.
Oui.
Ça c'est quoi, Duding?
Nee. On joue à Marley.
Marley?
Et de Marley, de Black Cats.
C'est une Black Cat.
Et puis, il y a Samuel qui nous envoie encore un petit message qui dit « Désolé, Pastis, on était obligé. Non, il a même mis « on
avec
était
ER, hein.
obligé.
Ah, obligé, ouais.
Obligé. Gau. Also, Pastis. Super, toi.
Das hat mich gefreut.
Ja, ich auch. Ja. Super. Du hast Salutation von der Schmutzli.
Ja.
Ja, das liebt.
Ja.
Und von der Santi Klaus,
ja.
gell?
Ja. Und der Oli auch.
Und der Oli.
Ja. Mit Chinesen.
Als Mandarine.
Als Mandarine, ja. Wie, wo schon?
Ja.
Ja, du hast
Musik gehabt, oder? Du hast gratis Eintritt für ein Serge-Konzert.
Ja, willst du das?
Mit Mandarine für Werfen, ne? Ja, ja.
Das ist super.
Super, Bastis.
Ja. Marley, Radio Fribourg, nicht so far, hein?
Also, Bastis.
Oh. Tschüss,
merci.
Tschüss,
merci. Super, ja, super.
Alors là, on appelle Sarah, c'est sa meilleure amie, elle est argovienne.
Ah.
Sauf erreur.
C'est
Jeff
la meilleure de Jeff.
Qui
envoie,
ouais. Voilà.
Elle est argovienne.
Attention,
tout,
Nicolas.
Tout propre, hein?
Allô? Allô?
Allô?
Ja, hallo. Sarah?
Ja.
Hier ist der Schmutzli.
Das wer?
Der Schmutzli. Der Mann in Schwarz. Und ich habe gehört, dass du Blödsinn gemacht hast dieses Jahr.
Oh,
und ich muss klar. dich korrigieren. Aber für genau wissen, wie viel Schlag du bekommst. Oh, ich muss wissen genau, was hast du gemacht für Blödsinn dieses Jahr?
Oh, weiß auch nicht.
Weißt du nicht? Oder nicht mehr?
Wo hast du
meinen Nacken? Das ist eine grosse Geschichte. Also, wir sind da mit Radio Freiburg, also Fribourg, Entschuldigung. Und wir haben eine SMS bekommen vom, ich weiß nicht mehr.
Vom Jeff.
Der Jeff.
Der Jeff hat uns gesehen.
Kennst du Jeff?
Ja, sicher kenne ich den Jeff.
Mhm. Aha.
Mhm, das ist dein Schätzeli.
Nein, das ist eben nicht mein Schätzeli.
Bist du Mandarinen?
Wir probieren Jeff an
Lüten. Am Telefon, Lüten. Hey, voilà, ça sonne chez Jeff, là, cette
fois. Ist Jeff da, gau? Probieren mal.
Ça,
c'est
nur ein Arschloch.
Ja, genau.
Oh ja, du. Er wird
oui, allô? Oui, allô, Jeff.
Jeff, t'es un enfoiré.
Excellent.
Ça oui, fait plaisir. Moi.
Oui, Jeff, tu es sur Radio Fribourg.
Oui,
39.4, magnifique. Donc, tu as dénoncé ton amie Sarah quoi, pour des bêtises qu'elle aurait faites. Et moi, en tant que Schmutzli, donc père fouettard, il faut que je sache ce qu'elle a fait, tu vois.
Ah, mais c'est pour me venger de tout ce qu'elle m'a fait.
Oh, bah, carrément.
Oh là 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 là.
Ah ouais, règlement de compte en direct.
Ouais, qu'est-ce qu'elle t'a fait, c'est
savoir.
Terrible.
Alors toutes les fessées qu'elle m'a données.
Ouh. Ah ouais, il nous semblait bien qu'elle aimait bien un petit peu ce genre de truc, hein.
Oh.
Elle te donne des fessées au job?
Non, pas au job.
Ah, en dehors du job?
Oui.
Après le job?
Oui.
Non, ça m'énerve, je suis furax.
Oli qui réclame des fessées et puis rien.
Alors vous êtes rencontrés donc au job?
Non,
mais
non, non.
Où?
Alors explique-nous tout en français qu'on comprenne.
Rien, Jeff, vas-y, raconte.
Nous, ça fait quoi, une année et demie qu'on se connaît par l'intermédiaire d'une autre amie.
Mm-hmm.
Et puis depuis, on est les monstres meilleurs potes qui existent.
Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas.
Voilà. Jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à
aujourd'hui. Oh là là là.
C'est vertique, hein.
Tout ça à cause d'une histoire de père fouettard, quand même.
Mm-hmm. Ouais.
Ouais. Schmutzli, ma foi.
Ouais, Schmutzli est passé par là. Ah, c'est toujours le roi de l'embrouille, hein, le Schmutzli boy.
C'est,
hein.
C'est vrai qu'il faut, ouais. Il met pas mal la M. Hein.
Ouais.
Ouais, sérieusement.
D'ailleurs, Yves et Tania.
Bon, ben, Jeff, on te fait des gros bisous. Merci d'avoir dénoncé cette vilaine petite Sarah qui va recevoir une bonne schlaguée de notre Schmutzli.
Elle l'a quand même mérité, hein, moi, je suis sûr.
Ouais. Ok, on vous embrasse tous les deux.
Oui. Merci.
À bientôt. Tu sais, hein.
Adé.
Merci.
Adé. Claire Falstankra.
Tip top, voilà.
Je vais tic.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle, mon Riri. J'ai des nouvelles de Carmen Schaaf.
Ah, bah oui, parce que moi, je suis inquiet. J'admirais sa photo bon, qui date du 18 janvier. Rien mis depuis. Et puis,
sur Facebook.
Je suis un peu inquiet. Et puis,
ouais,
bah, toi,
tu es fan depuis longtemps.
Les commentaires déferlent de mes ennemis jurés. Wunderschön, gorgeous, best girl in the world, absolutely, Miss Curlin. Such a goodness.
Alors.
Pure beauty, pretty woman, the most beautiful girl of curling.
Oh là là.
Amigos, RS Hermosa, on sait pas. Carmen, marry me, baby. Tim Tulip, je te hais. Tout ça, c'est quand même difficile à avaler parce que depuis cette photo où elle est, ma foi, splendide. Avec ses belles lunettes de soleil, elle pose.
Tu n'as pas de nouvelles depuis.
Je n'ai pas de nouvelles. Et en plus, j'ai perdu ma photo dédicacée. On me l'a volée ou j'en sais rien.
C'est un petit peu l'historique parce que Rio est tombé amoureux lors des derniers JO de Sochi de cette curleuse, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, Carmen Schaffre. Schaffer ou Schaffre.
La Schaffre.
En bon français de Fribourg. On a reçu par une auditrice très sympa une photo dédicacée qui a été exposée dans le studio, qui a depuis disparu. Bonne nouvelle. Je sais. Qu'est-ce qu'elle devient? Parce qu'elle a arrêté sa carrière quand même, ça on
l'a
interrompu ou arrêté. Elle va accoucher.
Comment ça, elle va accoucher?
Elle est enceinte.
Oh! C'est pas la bonne nouvelle du jour, ça.
Elle est enceinte, elle va accoucher dans 2 mois, paraît-il. Je le sais, car je suis allée enregistrer hier un reportage sur le curling avec le club de Fribourg du Dignan.
Ah, donc forcément, ça, ils ont des relations.
Et j'ai demandé ce qu'il en était de Carmen Schaffre, qu'on s'inquiétait beaucoup de pas avoir de réponse, que tu essayais de la joindre, etc. Eh bien, voilà. Elle a un homme dans sa vie et elle va accoucher dans 2 mois. Mais peut-être qu'elle va te proposer d'être le parrain.
Déjà, je dirais qu'elle passe par l'étape me répondre sur mon message Facebook, hein, parce que pour l'instant, c'est lettre morte. Hein.
Ouais, on fait des pieds et des mains pour avoir une fois à l'antenne Carmen Schaaf pour faire plaisir à Rio. Si vous pouvez nous aider, mobilisez-vous.
Radio FR.
Radio FR.
Radio FR. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Ils viennent d'un pays merveilleux, la Boltzie. Voici les aventures de Janine et Bernard.
Et Monique, ciao.
Dis donc, Janine, ça fait plaisir de te voir, dis donc, longtemps plus revu, hein. Puis alors, comment il va, Bernard?
Ouais, je sais plus très bien où j'en suis ces temps avec Bernard. Non, tu sais, il est... Comment? Il est plus très romantique, tu sais. Tu sais, moi, j'en ai marre, hein. Je dois toujours courir après lui derrière ses chaussettes, ses machins. Il a un bordel, mais c'est un bordelique. Moi, j'en ai assez, gars.
Ben, écoute, moi, j'ai une solution pour toi. Tu sais, moi, des fois, je vais sur les sites de rencontres, là. Puis, j'ai vu qu'il y avait une annonce de quelqu'un de très bien, qui tirait très bien. Il aime beaucoup l'ordre. Toi, je sais que t'aimes ça, donc ce serait bien, non? Qu'est-ce que t'en penses, Janine?
Écoute, ouais, pourquoi pas? Ça m'intéresse, ouais.
Regarde, il y a son numéro de téléphone. Si tu veux, je te le laisse.
Mais bon, faut que Bernard, il sache rien, hein.
T'inquiète, Bernard, il en saura rien.
Bon, ben, je vais essayer de l'appeler, on verra bien. Bon, allez, moi, je prends mon courage à deux mains, puis j'appelle ce type, hein. De toute façon, Bernard, il en saura jamais rien. Alors.
Oui, bonjour, vous êtes Dominique?
Oui.
Bonjour, je m'appelle Janine.
Oui, bonjour.
Bonjour, écoutez, j'ai lu votre annonce sur le Internet, là.
Ah, ouais.
Et puis, en fait, je dois dire, j'étais vraiment très touchée par votre message.
Ouais, elle disait de quoi, cette annonce?
Alors, moi, ce qui m'a plu particulièrement, c'est que vous étiez un homme calme.
Ah ouais.
Et puis vous recherchez, paraît-il, une femme qui est assez organisée comme ça, hein?
Ouais.
Et puis ben ça, moi, ça, j'aime beaucoup.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est important, voyez, les choses, elles doivent être bien faites, quand
mais
il
bon,
faut.
Ouais, mais si elle bosse à la radio, ça me tente pas trop quand même.
Comment ça?
Si elle bosse à Radio Fribourg, par exemple.
Comment ça?
Parce que j'ai bien reconnu votre voix. De Janine de Radio Fribourg.
Mais pas du tout.
Si.
Mais non, écoutez, vous parlez de quoi là maintenant?
Non, mais je sais. J'ai reconnu la voix, c'est bon.
Non, écoutez, je trouve pas sympa ce que vous faites, parce que vous aimeriez juste vous débarrasser de moi, hein.
Non, pas du tout alors.
Bon, ben écoutez, je vous souhaite tout bon, et puis voilà, je suis déçu, mais.
Ouais, mais parfois, c'est des choses qui arrivent, quoi.
Ouais. Il ne reste plus que les larmes pour pleurer.
Alors, bon après-midi.
À vous aussi, hein, Dominique.
Merci.
Au revoir.
C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit, ce mec, dis donc? Il parle de quoi? Radio Fribourg, Janine. Moi, j'ai rien à voir avec la Radio Fribourg.
Radio FR.
Radio FR. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est l'heure de notre étude du jour. Elle se passe en France et on nous dit que 70% des Français sont susceptibles de faire goûter de l'alcool à des mineurs pendant les fêtes. Ça risque de couler à flot. Et 7 adultes sur 10 ne voient pas d'inconvénient à boire un verre avant la majorité. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas s'il s'agit d'un verre complet ou juste un petit trempage de lèvres. Ce qui me paraît un peu ironique. Les personnes interrogées ont eu à se prononcer sur l'âge acceptable du premier verre. Il diffère en fonction du type d'alcool proposé, évidemment. Mais en moyenne, les parents se disent favorables à un premier verre de cidre à 15 ans, à de la bière, du champagne et du vin à 16 ans. Alors, ils sont plus frileux sur les alcools forts, évidemment, et estiment ne pas devoir en proposer aux mineurs de moins de 17 ans. Pour la Ligue contre le cancer, les résultats de cette étude attestent une large méconnaissance des dangers de l'alcool. Cette substance légale est à l'origine de 28 000 cas de cancer chaque année. Plus on commence tôt, plus il y a une habitude du cerveau, une appétence. Alors c'est peut-être pour ça que le fameux Dry January, le mois de janvier sans alcool, a été lancé.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La la la. La la la, c'est la vie. C'est la vie.
C'est C'est nouveau, Fabrice Maus avec C'est la vie, le club de Rio Etania spécial. D'ici quelques instants, on parlera paranormal.
Radio Fribourg.
La chronique boursière avec la Banque cantonale de Fribourg.
Le SMI est toujours dans le vert, il progresse de 1,06%. ABB affiche 7,64% de progression, Swisscom moins 3,15%. Le dollar se cote aujourd'hui à 1,0790, inchangé. Et l'euro, pareil, inchangé à 1,4663.
Le garage Suard à Corcelles-Payerne vous donne l'heure.
Et on vous souhaite une bonne soirée. C'est Radio FR, il est 19h.
Radio FR.
Radio Fribourg.
L'actualité avec Étienne Arrivé. Bonsoir Étienne.
Bonsoir à tous. Un avion de la compagnie Swiss a été baptisé du nom de la ville de Fribourg ce matin à l'aéroport de Genève. L'appareil, le tout dernier Airbus A330 acquis par la compagnie le mois dernier, arrivé tout juste de New York. Il a d'ailleurs redécollé pour la mégapole américaine juste après la cérémonie. Swiss souhaite ainsi progressivement rebaptiser toute sa flotte en donnant à chaque avion le nom d'une ville suisse. Après Genève et Lausanne, Fribourg est ainsi la troisième capitale cantonale romande à désormais pouvoir se flatter d'avoir son avion chez Swiss. CFF Cargo s'allie avec 6 compagnies européennes de transport marchandises. C'est sur le rail cette fois. Ensemble, elles ont fondé ce jeudi à Zurich Alliance X-Rail dans le domaine du transport international par wagon isolé. Le but est ici de rendre le fret ferroviaire plus concurrentiel, ponctuel et transparent. La carte d'assuré est désormais la même pour tout le monde, quelle que soit votre caisse maladie, et chacun devrait l'avoir reçue d'ici fin avril. Ce document, qui se présente comme une carte de crédit, contient des informations administratives et éventuellement médicales, lesquelles sont de toute façon bloquées par un code connu du seul assuré. Ces données sont introduites à la demande du patient. Elles peuvent concerner le groupe sanguin, les vaccinations, la transplantation, les allergies ou encore les séquelles d'accident. Il est aussi possible d'enregistrer des personnes à contacter en cas d'urgence. La production de lait en Suisse a frôlé son record de 2008 avec 3,4 millions de tonnes récoltées l'an dernier. Plus de 40% a été transformé en fromage, 17% en beurre. Autant de statistiques fournies par la société fiduciaire TSM Treuhand. Aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est que 2 exploitations par jour ont abandonné leur production. Il en reste 27 000 en Suisse et que le prix payé aux producteurs a atteint un plancher. Une alternative à l'initiative populaire de l'UDC pour le renvoi des étrangers criminels devrait être soumise parallèlement au peuple. La commission des institutions politiques du Conseil des États a confirmé aujourd'hui le contre-projet direct qu'elle a elle-même élaboré. Parmi les motifs de renvoi, ce contre-projet ajoute les escroqueries d'ordre économique comme les fraudes fiscales et le travail au noir. L'Union européenne espère que le contentieux entre la Suisse et la Libye pourra être réglé dans les 48 heures. Les ambassadeurs des 27 pays membres de l'UE, ainsi que les experts du groupe Visa de l'espace Schengen, ont discuté de ce fameux dossier aujourd'hui. Et les diplomates ont dit soutenir les efforts de l'Espagne qui assure la présidence tournante de l'UE en vue de trouver une solution à la crise. À Interlaken, à l'ouverture de la conférence ministérielle du Conseil de l'Europe, la Russie a annoncé qu'elle ratifiait un texte visant à rendre plus efficace la Cour européenne des droits de l'homme. Elle était le seul des 47 États membres à ne pas l'avoir encore fait et ce texte entrera en vigueur le 1er juin. La conférence a lieu sur l'invitation de la Suisse qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Europe. Au nord-ouest du Pakistan, au moins 12 personnes, dont un chef insurgé, ont été tuées dans un attentat sur un marché aujourd'hui. Cette fois, selon les services de sécurité, l'attaque pourrait être liée à une rivalité entre militants islamistes. La cible était un bâtiment utilisé par un groupe mi-criminel, mi-islamiste, qui n'est en tout cas pas affilié au principal mouvement de talibans pakistanais. L'OMS recommande une nouvelle formule pour le vaccin contre la grippe l'hiver prochain dans l'hémisphère nord. Elle inclut la souche de la grippe pandémique AH1N1, 2 autres souches seront contenus dans le prochain vaccin recommandé aux fabricants et les gouvernements seront libres d'utiliser le vaccin trivalent ou le monovalent de la grippe pandémique ou bien une combinaison des deux. Enfin, 2 mois après la déconvenue du sommet de Copenhague, le plus haut responsable de l'ONU chargé du climat, le néerlandais Ivo de Boer, a annoncé sa démission. Secrétaire exécutif depuis 4 ans de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, il quittera son poste le 1er juillet, 5 mois avant la prochaine conférence prévue à Cancun, au Mexique. Son départ intervient au moment où les négociations patinent et où les experts du climat sont dans la tourmente.
Radio FR,
la météo.
Avec Berdo Optique, opticien diplômé à la Tour de Trême, www.berdooptique.ch.
Météo de demain, identique à celle du week-end, c'est-à-dire des pluies, de la neige à partir de 1000 mètres, il fera entre 3 et 4 degrés.
Radio Fribourg,
à Givisy et Grange-Paco, sur 92.9.
Après Bill et Bill.
Combien de fois t'ai-je répété? Le cartable, ça sert à ranger les cahiers, pas les chiens.
T'en fais pas, Boule, on va le réveiller, ton Bill.
Je suis sûr qu'il joue la comédie.
Le club de Rio et Tania.
Nous aussi, on se réveille à 19h05, comme Bill.
Comme vous l'avez, l'OR.
Comme JD. Bonsoir, JD.
Bonsoir, JD.
Il se passe des choses bizarres dans cette radio.
Bon, ce qui se passe, c'est sûr, c'est qu'on a perdu tous les auditeurs qui essayaient de régler leur poste.
Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On a un esprit, parce qu'il a un esprit revenant, Mike. Il a lui-même un esprit revenant. Et donc, il est invité ce soir.
Vous n'en revenez pas. Hein,
non, je n'en reviens pas.
Esprit revenant. Bon, Mike a déjà beaucoup d'esprit, déjà, à la base.
Exactement. C'est pour ça qu'il est invité ce soir. Ça va, Mike?
Ça va bien, merci. Bonsoir, les amis. Bonsoir, JD. Bonsoir, Rio.
Bonsoir.
Bonsoir.
JD est avec nous.
Oui, je l'entends du fretch-fretch sur la ligne. Mais c'est normal, en fait.
C'est normal.
Enfin, c'est pas rare.
Normal.
Normal.
Ce soir, on va parler d'esprit revenant, parce que c'est une émission vraiment spéciale. Tania n'est pas là. Elle a trop eu les chocottes. Hein. Pour elle, c'était pas possible.
On lui avait pourtant demandé de prendre un guéridon, faire le principe des tables tournantes. Heureusement qu'on a une grosse table ici.
Ah, celle-ci, elle va pas se lever. Hein. Ou alors, si elle se lève, c'est qu'il y a vraiment un
alors
truc.
C'est un esprit balèze. Hein. Ce serait un catcheur ou un haltérophile.
Un esprit de catcheur. Et donc, ce soir, on va avoir plein d'intervenants qui vont venir parler de témoignages, de choses, durant l'émission jusqu'à 20h. Et on va essayer de voir s'il y a des gens qui ont réussi à communiquer ou avoir des visions, des choses qui viendraient de l'au-delà, l'après la mort. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine, à la télé, à la radio.
On en voit des émissions, mais des fois, on a un peu de la peine à dénouer le vrai du faux. On se dit, est-ce que c'est de l'authentique? Est-ce que c'est du canular? Ceux qui ont le câble et le satellite connaissent peut-être une émission qui s'appelle Tracker ou Chasseur de fantômes, qui
passe sur
Planète No Limites. Il y a une version anglaise, une version américaine. Personnellement, je suis assez fan, mais des fois, je suis obligé de me poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est de la télévision? Est-ce que c'est de la mise en scène?
Moi, j'aime bien regarder, mais ça m'endort.
Ah bon?
Ah, je verse.
Ah, toi, t'es bizarre parce que moi, justement, j'aime bien regarder ça le soir et ça me tient réveillé.
Ah oui,
encore,
moi, ça
encore mieux qu'une tasse de café, je dois dire.
Je crois qu'on va essayer de communiquer avec une liaison Skype. On verra bien ce que ça donne. Puisqu'on a Joël qui est avec nous.
Oui, je vous entends, je vous écoute.
Voilà, Joël qui est par Skype à Paris, pas loin de Paris, on va dire. Hein.
Oui, dans la banlieue parisienne, dans le 93 exactement.
Dans le 93.
Une émission comme celle-ci, on aurait pu la faire par télépathie, à part ça. Hein.
Ouais.
On va essayer. Ça aurait été très bien.
Ouais. Alors, Joël qui est avec nous, on va parler de l'IFRES dont vous faites partie. Alors, qu'est-ce que l'IFRES?
Eh bien, l'IFRES, c'est l'Institut français de recherche et d'expérimentation spirit.
Ouais.
C'est-à-dire que dans cet institut, nous étudions les phénomènes de transcommunication instrumentale, mais aussi les phénomènes médiumniques, comme l'écriture automatique, la voyance, la psychométrie, la télépathie, justement.
Oui, donc ça, on va en parler d'ici quelques instants. Donc, on a un invité qui est avec nous, qui va arriver. On va s'écouter un peu de musique, et puis on va parler justement de tous ces esprits avec qui on va tenter de communiquer, peut-être.
Oui.
JD, avec ton esprit tordu ce soir.
Non, mais ça m'a fait beaucoup rire quand tu as dit l'IFRES, parce que je me suis dit, tiens, il y a Apple qui nous a sorti une nouveauté, là.
Mais... Allez, bah, une nouveauté, on en a une maintenant, c'est le groupe Gush avec No Way sur Radio FR. All fine by you.